Radio Kapi.
Oh, Kapi. Les journaux, Gisèle Cage.
Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Voici, sans plus attendre, les principaux titres de l'actualité. Liberté de la presse en péril, GED alerte sur des crimes en RDC. Un rapport explosif révèle l'étau mortel dans lequel sont pris les journalistes de l'Est, coincés entre pouvoir, forces armées et milices. Équateur, fermeture massive de ports clandestins. Le gouverneur ordonne la suspension de 71 sites illégaux, dont Bralimont, pour sécuriser l'approvisionnement et lutter contre la fraude. UPC, 66 ans, au service du savoir et de la société. À l'occasion de son anniversaire, l'université protestante au Congo dévoile ses projets et sa vision pour l'avenir. Une institution qui a formé des générations et continue d'innover pour bâtir le Congo de demain. Le professeur Kwim Bibi Bikan nous en parle en fin de journal. Ces numéros s'ouvrent sur une dénonciation choc des crimes graves contre la presse en RDC. L'ONG Journalistes en danger, GED, a rendu public samedi à Kinshasa un rapport accablant sur les violations commises à l'est du pays. Dans ses 32 pages, GED décrit une situation alarmante où les professionnels des médias se trouvent pris en étau entre autorités, forces de l'ordre et groupes armés. Parmi ces recommandations phares, des enquêtes sur les assassinats des journalistes et le respect strict de la liberté de la presse. Le condensé de ce rapport avec Marc Marofimbo.
Dans ces rapports, Journalistes en danger s'insurge contre l'enrôlement forcé des journalistes dans les rangs de la rébellion qui consacre la fin des médias indépendants et la mort du journalisme professionnel dans les territoires sous occupation du M23 et où plusieurs installations des médias ont été réduites au silence par les rebelles. Mais il n'y a pas que les rebelles qui s'en prennent aux professionnels des médias dans l'est de la RDC, écrit GED. Parmi les principaux auteurs des attentes à la liberté de la presse figurent également les services de sécurité et des renseignements, mais aussi les autorités congolaises et des membres appelés combattants de certaines formations politique, poursuit les rapports. GED note par ailleurs que depuis l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir, il y a 7 ans, 12 journalistes ont perdu leur vie. Face à cette situation, GED recommande aux autorités des enquêtes approfondies sur les assassinats des journalistes afin de mettre fin à l'impunité des crimes contre les chevaliers de la plume. L'ONG invite enfin les groupes armés à respecter les droits des journalistes et la liberté de la presse. Beni Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Après cette alerte sur les menaces qui pèsent sur la liberté de la presse, cap maintenant sur la sécurité nationale. Le parti En Vol tire la sonnette d'alarme face à l'enlisement de la situation sécuritaire dans l'est du pays, malgré la signature de plusieurs accords de paix, notamment ceux de Washington et Doha. Son secrétaire général, Rodrigue Ramazani, l'a affirmé ce samedi lors d'un meeting populaire au quartier Malueka, dans la commune d'Ngalima. Pour ce cadre de l'opposition, la solution passe par un dialogue franc entre Congolais, comme le recommandent les confessions religieuses, Sanko, SCC et autres, afin d'améliorer la situation sociale, économique, politique et sécuritaire à travers le pays. Le propos de Rodrigue Ramazani, recueilli par Blaise Ndongala Mayanda.
Le chef de l'État a autorisé la signature des deux accords, à savoir celui de Washington et de Doha. Mais nous constatons que sur terrain, rien n'évolue, car la paix est loin d'être une réalité au pays. Plus particulièrement dans sa partie Est, nous les partis En Vol, nous avons marché le 2 juin 2022 pour manifester notre soutien au FRDC dans leur combat contre les rebelles. Les jours passent, mais la situation ne bouge pas. Les évêques de la Cinco et les révérends de l'ECC propose le dialogue entre les Congolais. Mais le chef de l'État a refusé cette initiative. Entre-temps, la population continue de souffrir avec la baisse du taux d'échange, alors que les prix des biens et services ne suivent pas. En plus de cela, l'insécurité bat son plein à Kinshasa. La majorité des jeunes ne travaillent pas et ça donne plus aux jeux d'hasard comme Winner pour survivre. Nous encourageons l'avenir des investisseurs pour donner des emplois aux jeunes. Alors je vous demande de braver la peur et de s'impliquer dans la lutte contre les antivaleurs qui entravent le développement du pays.
En Ituri, plus de 40 000 réfugiés sud-soudanais vont être déplacés des zones frontalières vers des sites situés à l'intérieur de la chefferie des Kakwa dans les territoires d'Aro. Selon les chefs coutumiers, ces réfugiés sont régulièrement la cible d'hommes armés venus du Soudan du Sud qui multiplient des incursions sur les sols congolais. Des dispositions sont déjà prises pour la construction d'abris dans les nouveaux sites afin de rendre possible cette opération de délocalisation. Explication signée Isaac Remoyope.
La première vague des réfugiés sud-soudanais a commencé à arriver en avril 2025 dans la chefferie de Kakwa, fuyant les combats dans leur pays. Aujourd'hui, ils sont estimés à environ 45 000 installés tout le long de la frontière entre les deux pays, notamment dans les localités de Kereniku, Nyangara 1 et 2, Kembio, Liku, Kengezi, Arile et Bula. Mais ces zones frontalières ne sont pas sûres. Des sources locales dénoncent des incursions d'hommes armés venus du Soudan du Sud qui recherchent certains réfugiés et se livrent au pillage de leurs biens ainsi que des habitants locaux. Pour répondre à cette situation, les autorités coutumières ont mis à la disposition de l'État des nouveaux sites situés à l'intérieur de la chefferie dans les groupements Adoumi et Inzi afin de relocaliser ces réfugiés. Le chef de la chefferie de Kakwa, le Kambochukia.
Il faut que ces gens soient vraiment éloignés de la frontière, compte tenu aussi de certaines situations sécuritaires à l'ordre de la frontière. Beaucoup de décidants diplomatiques par rapport à la présence de ceux demandés à les sols congolais. Raison pour laquelle nous avions pensé disponibiliser des sites.
Des travaux de construction d'abris sont déjà en cours sur ces sites, mais leur achèvement nécessite l'appui des partenaires du gouvernement pour rendre cette délocalisation effective, déclarent des sources locales. À noter que ces mêmes sites avaient déjà accueilli des réfugiés sud-soudanais en 1979. Radio Kapi.
Politique au Kassai central, c'est désormais officiel. La liste des candidats pour le bureau définitif de l'Assemblée provinciale a été publiée ce samedi par le président du bureau d'âge, Stéphane Mwanda. Une étape cruciale pour sortir cette institution provinciale d'une crise qui dure depuis près de 6 mois. La liste comporte un candidat par poste, signe d'un processus qui se veut consensuel. André Katendingala Mouloumé nous présente les candidats retenus dans ce reportage.
Guy Sabanga Kachala, élu de Luisa sur la liste de l'Alliance Tshisekediste Unifiée et Alliée, est candidat à la présidence. Stéphane Kasui Katambala, de l'Alliance pour les Triple A et Alliés, est candidat à la vice-présidence. Il vient du territoire de Dibaya. Pour les postes du rapporteur, c'est l'élu de Demba, Patient Tchombe, qui est candidat. Il est de l'Alliance des Forces démocratiques du Congo et Alliés, David Ntumbambowe, des Actions des Alliés et UNC, candidat rapporteur adjoint et de la circonscription de Kazumba. Au poste des questeurs, nous avons Jean-Paul Bambi Mutamba, de l'Action pour la cause fédérative, circonscription électorale de Kananga. La circonscription électorale de Dimbelenge n'est pas dans cette course au perchoir de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Ces candidats ont 2 jours, soit lundi 24 et mardi 25 novembre 2025, pour mener leur campagne. L'élection et l'installation du bureau définitif auront lieu le mercredi 25 novembre au Capitole de l'Assemblée provinciale. Kananga, André Katendengala Mouloumé, Radio Kapi.
Dans la province de l'Équateur, les autorités passent à l'action. 71 ports illégaux ont été recensés et fermés. Le gouverneur a ordonné dès le début du mois de novembre la suspension totale de leurs activités. L'opération lancée la semaine dernière touche également le port de Bralima, connu pour son rôle clé dans l'approvisionnement des mandakas en produits alimentaires. Les détails avec Askin Zibia Tayoro.
Selon les informations recueillies, tous les propriétaires des ports privés ont été sommés de présenter des documents légaux leur accordant les droits de propriété. À la division provinciale de transport, il a été constaté que le port de Bralima ne dispose d'aucun document légal d'exploitation. C'est la raison pour laquelle ce port a été fermé. D'après le communiqué officiel du gouverneur, un port légal doit détenir 3 documents délivrés par l'État, à savoir les titres de concession, les certificats d'homologation et l'agrément du port. Pour le commissariat fluvial de Mbandaka, la fermeture du port Bralima est une mesure conservatoire. Sa réouverture ne pourra intervenir que lorsque Bralima aura déposé les 3 documents exigés auprès de la commission mixte chargée de superviser l'opération de la fermeture de port privés illégaux. Entre-temps, la fermeture du port Bralima fait craindre en Mbandaka une crise et une hausse de prix des produits agricoles, lesquels sont régulièrement déchargés dans ce port en provenance de Kinshasa et de différents campements situés le long du fleuve Congo.
La coalition pour les droits économiques, sociaux et culturels DESC engage une action en justice contre le gouvernement provincial de Kinshasa. Lors de son assemblée générale tenue ce samedi dans la capitale, cette organisation de la société civile accuse l'exécutif provincial d'avoir failli à son obligation de protéger les investissements privés. Le coordonnateur de la plateforme Jean Bosco Puna invoque l'article 34 de la Constitution pour justifier cette démarche menée en faveur de plus de 100 familles au quartier Boyoma, contraintes de dormir à la Belle Étoile depuis deux semaines. Jean Bosco Puna s'exprimait au téléphone avec Blaise Ndongala Mayanda.
Privant à cette population de Funa les droits au logement, les droits à la santé, les droits à la sécurité alimentaire, les droits à l'eau potable et à l'énergie électrique, les droits aux équipements sanitaires minimum, la coalition DESC prend l'engagement d'intenter une action en justice à travers les collectifs d'avocats pour que justice soit faite. La coalition DESC sollicite l'accompagnement du président de la République, chef de l'État, pour faire suspendre l'opération démolition-expropriation des citoyens et faciliter l'indemnisation des victimes dans les meilleurs délais. Au président de la CNDH, Commission nationale des droits de l'homme, de soutenir l'action judiciaire qui sera portée devant la Cour compétente pour la protection sans faille des droits économiques, sociaux et culturels. Au Parlement congolais, d'envisager une loi pour éviter dans l'avenir des démolitions à répétition qui violent les droits fondamentaux des citoyens.
Développement durable à Kindu, le corps des volontaires pour les développements durables et multisectoriels forme jusqu'au 29 novembre les communautés locales. Objectif, leur apprendre les techniques de production et des commercialisations de briquettes de biomasse dans le cadre du projet Charbon de bois durable qui vise à réduire la coupe d'arbres et lutter contre le changement climatique. Écoutez Paul Nzongo Binyangi, secrétaire exécutif de l'organisation, au micro de Florence Kizalonga.
Nous sommes ici à la salle Krong Maniema. C'est dans le cadre de notre projet appuyé par la GIZ à travers le projet Chabodu, charbon du bois durable. Nous sommes ici en train de former la communauté locale sur la technique de production et commercialisation de briquettes de charbon vert ou charbon écologique. C'est dans le cadre de lutter contre la déforestation et participer à l'assainissement de notre milieu. Cette période, c'est parce que nous constatons qu'il y a vraiment changement climatique. Il y a la perturbation même des calendriers agricoles. C'est pourquoi nous sommes dit initier ces projets pour pallier à ces problèmes. L'impact de l'utilisation de briquettes écologiques par notre communauté, nous allons réduire la coupe d'arbres. Aussi, nous allons assainir notre environnement. Pas pour Kovodoum la première fois d'exécuter un tel projet. Mais cette fois-ci, nous allons mettre un accent plus sur la vulgarisation.
Kinshasa a rendu ce samedi un hommage solennel à l'un de ses plus anciens serviteurs de la nation, le sergent Moukoko Ndotoni, décédé à l'âge de 104 ans, porté en terre ces jours. Il a bénéficié de funérailles empreintes de dignité et de reconnaissance. De nombreuses personnalités civiles et militaires ont pris part à la cérémonie, parmi lesquelles le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale Guy Kabombo Mwadiamvita, ancien réserviste et soldat de deuxième classe de la force publique. L'illustre disparu a servi la nation avec loyauté tout au long de sa vie. Un reportage signé Blaise Ndongala Mayanda.
À son arrivée au lieu des obsèques, le patron de la défense nationale s'est incliné devant la dépouille de ses dignes fils du pays qui avaient combattu pour la nation à la base du Nigeria lors de la seconde guerre mondiale. Au cours de ses recueillements, la chancellerie des ordres nationaux a procédé à la lecture de l'ordonnance portant admission de ses vétérans dans l'ordre national des héros Kabila Lumumba. Dans son mot de circonstance, le ministre délégué près le ministre de la défense nationale chargé des anciens combattants a salué le parcours défait Moukoko Ndotoni ainsi que et celui de ses compagnons d'armes, les qualifiant de dignes et patriotiques. Cette cérémonie a également été marquée par des dépôts de gerbes de fleurs, l'oraison funèbre, les derniers hommages militaires, puis l'inhumation proprement dite. Des autres soldats décédés, notamment les premiers sergents André Lokele et Michel Mbavou, ont également été élevés à titre posthume, tandis que les derniers survivants de la liste, le sergent François Eyalé, a été honoré à titre honorifique.
Actualité internationale.
Depuis le Vatican, le pape l'a exhorté ce dimanche à la libération immédiate de plus de 300 élèves et enseignants kidnappés vendredi par des hommes armés dans une école catholique à l'ouest du Nigeria, l'un de plus importants enlèvements de masse du pays. 50 otages ont réussi à s'échapper selon l'association chrétienne du Nigeria. Ce rap survient après l'enlèvement lundi de 25 jeunes filles dans un lycée de l'état voisin de Kebbi, alimentant les inquiétudes sur la sécurité dans le pays le plus peuplé d'Afrique, où plusieurs écoles ont été fermées par précaution. Les autorités nigérianes affirment avoir lancé une vaste opération de recherche mobilisant forces de sécurité et volontaires locaux pour retrouver les victimes. Le pape a exprimé sa profonde tristesse face à ces attaques répétées contre des établissements scolaires, appelant à prier pour les enfants, leurs familles et pour la paix dans la région. Ces enlèvements attribués à des groupes armés opérant dans la brousse illustre la recrudescence de violence qui frappe les secteurs éducatifs et menace l'avenir des milliers de jeunes Nigérians.
L'invité.
L'université protestante au Congo s'apprête à célébrer ses 66 ans d'existence le 29 novembre prochain sous le signe d'une éducation qui façonne la société avec ses 10 500 étudiants et ses facultés de théologie, administration des affaires, sciences économiques, droit, médecine et bien d'autres. Cet établissement marque l'histoire de l'enseignement supérieur en RDC. Pour donner un cachet particulier à cet anniversaire, plusieurs activités sont prévues, dont une grande célébration à la cathédrale du cinquantenaire protestant dans la commune de Lingwala. Pour en parler, Jody Nkashama reçoit le recteur de l'université, le professeur Nkwim Bibi Bikan.
Professeur Nkwim Bibi Bikan, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Pouvez-vous nous brosser un peu l'historique de cette université? Comment tout a commencé?
Bien, elle est née en 1959 au Kasai Lac Moukamba par les missionnaires protestants, les missionnaires baptistes, les missionnaires presbytériens, disciples et méthodistes qui ont créé cette faculté. Elle a évolué jusqu'à devenir la grande université libre du Congo à Kisangani. Je rappelle à ceux qui ne savent pas, ou bien j'informe ceux qui ne savent pas, que l'université de Kisangani aujourd'hui, à l'époque, l'université libre du Congo, c'est l'université protestante. Donc c'est de là où nous sommes venus.
De Kasai jusqu'à Kisangani.
À Kisangani. Et là, on a créé l'université protestante, appelée l'université libre du Congo, qui est devenue aujourd'hui l'université de Kisangani. Donc si nous avons quitté Kisangani, c'est en 73 avec l'UNASA, où le président Mobutu avait unifié toutes les universités, même l'Ovanium n'était plus l'université catholique, Kisangani, l'université libre du Congo, n'était plus protestante, et il a fait en sorte que la faculté de théologie qui était à Kisangani, à l'université libre du Congo, vienne à l'Ovanium avec les catholiques. À un moment donné, il a fait sortir nos facultés de théologie, récupérer l'Ovanium du côté catholique, récupérer Kisangani du côté protestant, et nous avons recréé cette université vers les années 74, pour devenir aujourd'hui une grande université protestante au cœur de l'Afrique.
Sous quel signe vous comptez célébrer cet événement?
Bien, sous le signe d'une éducation qui façonne la société. L'IPC a été créé en février 1959. En cette année, nous allons totaliser 66 ans.
Alors, quel bilan pouvez-vous établir aujourd'hui, 66 ans après?
Un bilan nettement positif. L'université protestante a formé des élites pour l'intérêt de la RDC et même du monde, de l'Afrique. Et n'oubliez pas que dans l'actuel gouvernement, nous ne comptons pas moins de 5 ministres. Nous avons beaucoup de députés de l'IPC, des sénateurs, beaucoup d'avocats, de magistrats, et d'enseignants, de pasteurs, des informaticiens, dans tous les domaines. Et les anciens de l'IPC émergent dans la société congolaise. Et ce que je suis en train de dire, les gens peuvent témoigner, donc partout ils sont là, dans des banques, dans les écoles, les universités, les hôpitaux, dans l'entreprise. Donc, ces anciens du PC font la fierté de notre pays et ils rendent des grands services avec l'éthique chrétienne.
Quelles sont les facultés qui sont organisées aujourd'hui au sein de votre université?
Bien, la faculté d'administration des affaires et sciences économiques, la faculté de droit, la faculté de théologie, la faculté des sciences informatiques et la faculté de médecine. N'oubliez pas que dans beaucoup de facultés, les écoles doctorales, comme dans la faculté d'administration des affaires et sciences économiques, nous avons l'école doctorale, la faculté de théologie, il y a l'école doctorale, la faculté de droit et l'école doctorale. Et nous avons aussi des partenaires. Donc, par exemple, l'école de santé publique à l'IPC, nous travaillons avec Paris, l'université Paris-Saclay. Nous avons un master en business administration avec l'université de Francophone allemande, avec l'université de Liège en Belgique et avec d'autres universités partenaires. Donc, c'est une grande université qui a produit des grands fruits, qui ces hommes et ces femmes sont tentés de servir la nation, dont nous avons besoin de cette reconnaissance.
Quelles sont vos perspectives d'avenir?
D'abord, le terrain est trop petit, il y a beaucoup de demandes de parents. Vous voyez, à l'inscription, nous n'arrivons pas à contenir le grand nombre. Il nous faut un grand terrain pour un autre site. Et aussi, nous avons une clinique à l'IPC qui vient de commencer. Trouver toujours un grand terrain pour une grande clinique universitaire et ouvrir d'autres facultés. Donc, bref, un grand terrain pour avoir un autre site universitaire avec beaucoup de demandes dans toutes les facultés.
Aujourd'hui, vous comptez combien d'étudiants?
10 500 étudiants.
Au-delà de cette célébration à la cathédrale du centenaire protestant, quelles sont les autres activités qui vont marquer cette célébration?
Il y aura le soir un dîner de gala à nos invités. Dès qu'on va quitter la cathédrale, il y aura des conférences. Il y aura aussi la présentation de l'ouvrage de professeur Thomas Mounaï Moutoumou, 400 pages sur l'historique de notre université. Et après, les professeurs vont parler de l'avenir de l'université. Et le soir, il y aura un repas de gala.
Un message à tous les anciens de l'UPC, à tous ceux qui votre université.
Donc ça vient une fois, nous n'allons pas encore célébrer maintenant les 66 ans. Je demande à tous les anciens de l'UPC, ministres, anciens ministres, députés, anciens députés, directeurs des entreprises, entrepreneurs, médecins, avocats, magistrats, pasteurs, venez s'il vous plaît le samedi 29 novembre à 10h célébrer ce grand événement de l'UPC qui a fait de vous ce que vous êtes devenu.
Professeur Nkouimbi Bibikane, recteur de l'université protestante au Congo, merci.
Merci, c'est moi qui vous remercie.
Merci à Jody Nkachama et à son invité pour ses éclairages sur les préparatifs du 66e anniversaire de l'université protestante au Congo. C'est la fin de notre édition de 18h mise en onde. Billy Landry Beto, coordination Jude Mister Bilonda, présentation Gisèle Cage. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux pour rester informés en temps réel. Merci de votre fidélité. À très bientôt pour la prochaine session d'information sur votre radio.